Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous et bienvenue dans Le Goût d'entreprendre. On va cuisiner avec Renaud Dufour, notre invité. Il est le fondateur de l'atelier de cuisine gourmande installé à Launaguet, près de Toulouse. Il accueille dans son atelier et dans ses cuisines plus de 5000 personnes par an et il aide aussi, vous allez l'entendre, les futurs professionnels à tester leur activité. Bonjour Renaud Dufour.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre pour Le Goût d'entreprendre. Vous nous avez cuisiné quelque chose ?
Rien du tout.
On va le faire en direct alors. La cuisine, c'est une histoire de famille, une histoire de transmission et c'est aussi, il faut le dire, terriblement tendance. Vous avez lancé, Renaud, il y a un peu plus de 20 ans, les premiers ateliers de cuisine autour de Toulouse. Vous étiez un des premiers sans doute arrivé sur ce marché, c'était avant l'arrivée des émissions de télé, etc.
Tout à fait un des pionniers, puisqu'il y a 20 ans, enfin en 97, la cuisine n'était pas du tout tendance. Vous savez qu'on avait tendance à prendre ça pour quelque chose qui était un peu lié à l'enseignement ménager, donc c'était pas du tout à la mode. Et puis il y a eu des mouvements, des effets de mode qui ont fait changer un petit peu les choses, des mouvements sociaux, avec José Bové qui a plus de 20 ans a parlé de malbouffe, et effectivement ça a sensibilisé un petit peu les Français sur l'équilibre alimentaire, l'origine des aliments, la transformation. Et puis on a en fond aussi l'obésité infantile qui a sensibilisé les Français pour mieux manger et mieux apprendre à manger à nos enfants.
Oui, tout à fait. Vous avez été un visionnaire.
Oui, c'était une passion que j'avais eu de transmettre avec le grand public, transmettre des tours de main de chef, une organisation qui existait dans les restaurants et qu'on peut s'approprier quand on cuisine même à la maison. Donc j'avais envie de transmettre cette passion et puis évidemment après j'ai eu la chance d'être sur un créneau assez porteur. Sur une activité aussi où l'atelier de cuisine gourmande, c'est un atelier où chacun réalise une recette qui va ou emporter ou déguster sur place et où tout le monde participe à l'activité. Donc on est vraiment sur une activité de partage et participative.
Ouais, tout à fait. Renaud, vous êtes chef, vous êtes cuisinier en fait.
Exactement.
Vous avez étudié à Toulouse au lycée d'Occitanie.
Oui.
Et ensuite, vous avez travaillé dans de grandes maisons en région parisienne à Paris.
Oui, voilà, Lord Gourmand, c'était un ancien de chez Bocuse qui s'était installé sur Paris. J'ai fait mes premières armes et puis après le Sofitel de l'Étoile. Donc des grandes adresses étoilées dans le début de ma carrière qui s'est fait sur Paris pendant 5 ans.
Et vous n'aviez pas envie de rester dans une brigade ?
Si, j'y vais régulièrement puisque je fais des formations sur place, donc j'interviens régulièrement dans des établissements où je retrouve l'ambiance des restaurants. mais effectivement, j'ai plus une âme de pédagogue, d'animateur, et effectivement, je vais un petit peu de l'un à l'autre, d'un établissement à l'autre, pour enseigner des tours de main, des recettes un petit peu tendance et des savoir-faire qu'on ne connaît pas forcément quand on débute dans le métier.
Alors, qu'est-ce que vous faites dans votre atelier de cuisine gourmande, donc à Launaguet? Déjà, vous recevez beaucoup, beaucoup de stagiaires, hein, 5000 personnes par an, c'est énorme. Combien de cuisines, en fait?
Alors, on a deux grandes cuisines pédagogiques qui font chacune 100 mètres carrés. Dans chaque cuisine, il y a l'équivalent d'un accueil pour 20 personnes. Donc chaque participant a le matériel qui lui est dédié et peut réaliser suivant les thèmes ou une préparation qu'il va emporter en fin d'activité ou un repas qui va se faire sur place.
Alors vous recevez des gens qui viennent seuls ou également en entreprise, hein, vous organisez des team building?
Exactement, on a différents publics. Le public historique, c'est le public des particuliers qui venaient avec un abonnement hebdomadaire pour une activité avec
pour
une préparation qu'on emporte.
Un plat, par
tout
exemple.
À fait. Ouais. En deux heures, on réalisait une préparation, toujours sur un thème gastronomique. Et puis l'activité a évolué avec des cours de cuisine avec un repas sur place que l'on propose pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Et là, on a beaucoup le monde de l'entreprise qui est présent, puisque l'activité cuisine, c'est une activité participative autour du plaisir, du partage, de la convivialité. Et ça, c'est quelque chose qui plaît bien aux managers qui organisent des événements chez moi. À peu près 120, 150 événements chaque année. Donc, vous savez que ça fait beaucoup.
C'est beaucoup.
Nos locaux et en dehors de nos locaux, puisqu'on intervient aussi sur des lieux de séminaires, des espaces de réception pour l'activité de team building, ce que certains appellent des team boosters.
Des team boosters, c'est ça.
On n'est pas dans le domaine de la, du dîner presque parfait, puisqu'il n'y a pas la télé, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de notes. Tout le monde est content de partager ce qui a été réalisé. Mais voilà, je suis un petit peu dans tous ces domaines, à la fois dans le domaine du loisir créatif, mais aussi dans le domaine de l'activité de cohésion d'équipe, du team building.
Alors, qu'est-ce qui a changé ces dernières années en termes de cuisine, de préparation déjà dans un premier temps, puis après vous allez peut-être aussi me parler des tendances alimentaires, de ce qu'on trouve dans l'assiette.
Alors voilà, donc déjà il y a une sensibilisation des Français au bien manger, à manger des produits frais. Alors maintenant on est très axé sur les circuits courts, sur acheter à un producteur qui est à côté, avec qui on va avoir une relation. Donc c'est vrai qu'on a tendance à couper un petit peu les intermédiaires qui étaient présents, et on va avoir un rapport de confiance qui va s'instaurer, une confiance qui s'est un petit peu coupée avec toutes les crises alimentaires qu'on a connues. Mais après, à côté de ça, on a aussi une cuisine qui s'est un peu mondialisée, avec l'utilisation d'épices, d'arômes, de produits qui viennent du monde entier. Actuellement, il y a beaucoup la cuisine asiatique, japonaise, qui est très présente dans nos cuisines. Et on va beaucoup métisser. Donc on est un petit peu à la fois dans quelque chose de local, mais aussi quelque chose de mondialisé avec un métissage des cuisines.
Ça vous plaît, ça ?
Ah, c'est extrêmement riche, puisque ça change régulièrement. C'est propre à la cuisine française. Hein, la culture française, elle est très riche. La cuisine française est très riche et a toujours tendance à aller s'inspirer de traditions, de recettes étrangères et de métisser. Ça correspond à une histoire de propre à notre pays.
Alors, vous êtes nombreux sur le marché Renault, les ateliers de cuisine. C'est vrai qu'on en voit fleurir un petit peu partout. Qu'est-ce qui va faire votre différence ? Vos atouts.
Alors, nos atouts, c'est que déjà, on a une grosse expérience, donc plus de 20 ans d'expérience. Une équipe de chefs partenaires qui sont à la fois des chefs qui sont issus d'établissements diplômés, qui sont des passionnés, qui sont des fans de cuisine, qui ne parlent que de cuisine. Ils sont vraiment habités. Et c'est vraiment des bons communicants. Donc ça, c'est vraiment une de nos forces. C'est que toutes les personnes qui viennent chez nous sont des personnes qui ressortent après ravies, parce qu'il y a une ambiance, il y a un feu qu'on partage. Et ça, c'est quand même une autre dimension par rapport à ce qui existe ailleurs.
Les émissions de télé-réalité ou de télé tout court vous aident ?
Bien sûr, oui, on a déjà participé à quelques émissions. On a aussi formé des personnes qui ont participé à des émissions de cuisine, comme Top Dîner Presque Parfait. Ouais. Voilà, on a régulièrement des personnes qui viennent et qui me demandent d'être un petit peu coaché avant de partir sur des émissions comme ça.
Et vous le faites ?
On fait ça, puis on a fait quelques émissions avec Maïté au tout début. Voilà, c'est vrai qu'il y a un effet média qui joue aussi
sur notre... Qui vous porte aussi, bien
sûr. Exactement.
Vous pensez que ça va durer ?
Alors, je pense qu'on aura toujours besoin de manger.
Ouais, ça, c'est... on l'espère, en tout cas.
On aura toujours besoin de vivre curieux et de découvrir des nouvelles choses. Et je pense que l'alimentation, on a besoin aussi de découvrir des nouvelles choses et d'apprendre à manger. Je pense que ça va être important. De ne pas se couper de notre base, de nos origines, de la terre. Je pense qu'on aura toujours besoin de ça. Après, avec des différentes formes, mais c'est vrai que je pense qu'on aura toujours besoin de ça. Et puis, on aura aussi un recul. Le fait d'être coupé de la nature et le fait d'être coupé de notre cuisine, on connaît un petit peu les effets déviants qui peuvent exister. Et du coup, je pense qu'on aura toujours besoin de connaître l'origine des produits, la transformation. Et puis, on aura toujours besoin de partager du plaisir avec d'autres personnes. Et c'est vrai que ça, c'est propre à notre culture. Je pense qu'on a toujours de beaux jours devant nous.
Oui, ça, c'est certain. Oui. En tout cas, vous le défendez.
Exactement. Puis on a une culture locale qui joue aussi
bien
avec
un
bon vivre, des
bons
produits. Donc tout ça, ça va dans le bon sens, en fait.
Hashtag InstaFood, ça vous parle ? Vous êtes sur les réseaux sociaux, Renaud ?
Oui.
Vous photographiez les plats ?
Je fais des photos de plats, surtout qui sont diffusées sur LinkedIn, c'est un réseau professionnel. De temps en temps sur Facebook aussi, mais j'ai tendance à être plus dans ma cuisine que sur mon PC.
Vous faites partie des cuisiniers ou des chefs qui prennent les plats en photo avant de les amener en cuisine ?
Alors, on fait des photos des plats qui ont été réalisés par nos élèves, oui, tout à fait.
Ouais.
Ça fait partie de notre communication. Et c'est vrai qu'on préfère plutôt être dans la vraiment, vraiment pratique, dans le pratique plutôt que dans le virtuel. Donc on est un peu moins présent sur les réseaux sociaux que d'autres. Hein.
Oui, voilà, c'est ça, de prendre son plat systématiquement en photo.
Exactement.
Avant de manger. On considère peut-être qu'un gâteau doit d'abord être bon avant d'être beau. Est-ce que c'est votre avis?
Alors,
ou pas?
Il faut qu'il y ait un peu des deux, hein, parce que ça peut être très bon, mais si ça n'a aucune gueule, effectivement, on aura du mal à le manger. Manger, c'est un acte intime, on met quelque chose en soi qui est étranger, donc effectivement, il faut qu'il y ait une certaine esthétique.
Une certaine appétence.
Ça va jouer, et après, effectivement, ça peut être beau et pas bon du tout, donc des fois, on est déçu. C'est pour ça que c'est important pour les enfants d'avoir une éducation culinaire, une éducation
tout
sensorielle. On intervient pour l'éducation nationale dans les écoles, notamment pour la semaine du goût, mais pour découvrir ce que c'est que le goût, comment ça fonctionne, puisque quand on cuisine et quand on mange, on a nos cinq sens qui sont mis en avant, et c'est quelque chose qui permet aussi de développer à l'enfant les atouts de son évolution.
C'est vrai que vous avez un rôle essentiel à jouer, vous, en tant que cuisinier. C'est ce rôle de transmission, de partage, certes, mais aussi de transmission.
Oui, de transmission, mais aussi de réactiver une transmission d'un chaînon manquant, parce qu'on a connu à l'après-guerre un pays qu'il fallait reconstruire, et des femmes qui sont parties travailler, et du coup, on a la transmission du savoir culinaire qui s'est pas forcément fait. C'est le moment où l'industrie agroalimentaire a pris le dessus sur l'alimentation de la famille.
Exact.
Et on connaît un petit peu après les déviances qui a eu. Donc c'est vrai qu'on a besoin de connaître comment on transforme la matière. On a besoin de partager un moment convivial, de savoir d'où viennent les produits.
De plus en plus, ouais.
Exactement.
Ou au moins d'en prendre conscience.
Oui.
Vous avez lancé aussi, Renaud, on va en parler en deuxième partie de cette émission avec Jean-Marc Fontaine, un organisme de formation, un incubateur de jeunes talents.
Exactement, tout à fait. On est tout le temps sur des nouveaux projets. Donc là, actuellement, on a des personnes qui sont en formation et qui ont besoin de tester un petit peu leur concept, qui peut être de la restauration traditionnelle, de la restauration à emporter, de la pâtisserie. Mm-hmm. Et donc, ces personnes qui sont en formation, on propose de les héberger pour tester leur projet avant de se lancer dans la création d'une entreprise, l'aménagement de locaux, un achat.
On va en parler dans un instant. Vous allez nous donner plein d'idées pour tous ceux qui veulent se lancer en restauration, parce qu'il y a encore de belles choses à réaliser.
Exactement.
Le goût d'entreprendre. Doris Pradal.
Et dans le goût d'entreprendre, nous avons le sens de la formule. Nous avons décidé il y a un instant, Jean-Marc Fontaine, bonjour, d'ouvrir un restaurant.
Bonjour Doris, oui, nous allons commencer à servir les repas.
Voilà, absolument, à cuisiner avec Renaud Dufour, notre invité de l'atelier de cuisine gourmande installé à Launaguet, près de Toulouse. Première question, Jean-Marc, question gourmande à notre invité.
Alors, faute d'être allé dans votre atelier, je me suis baladé sur votre site web.
Merci.
Et j'ai trouvé des substantifs tels que cohésion d'équipe, apprentissage, savoir-faire, créativité, à faire pâlir d'envie le meilleur des programmes de développement du management. Alors, est-ce que l'apprentissage de l'art de la cuisine permet l'acquisition ou le développement d'aptitudes personnelles dont on a besoin dans les entreprises?
Alors, je pense que ça apprend à travailler ensemble. Pour les entreprises qui viennent chez moi pour l'activité de team building, on se retrouve dans un environnement qu'on ne connaît pas, une cuisine, avec des produits qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, une recette qu'on ne connaît pas, un chef qu'on ne connaît pas, et on va avoir à créer un repas gastronomique en 2 heures. Ça veut dire qu'il va falloir être rapide, travailler en équipe,
organiser
et s'adapter dans un environnement qui est récent, qui est nouveau. Et donc ça, je pense que ça fait partie des valeurs propres à l'entreprise pour être sur des nouveaux projets, être sur des nouveaux marchés, apprendre à travailler avec des collaborateurs qu'on ne connaît pas. On le voit beaucoup avec Airbus qui vient avec des collaborateurs qui sont sur différents sites et des personnes qui ne se connaissent pas, qui sont de cultures différentes. Et puis il y a aussi, à l'issue du repas, le plaisir de partager un défi, un challenge qu'on a réalisé ensemble, et pour lequel il y a une réussite, parce qu'évidemment on est sensible à la réussite, tout ce qui était préparé est réussi. Donc effectivement, l'activité de team building est complètement en lien avec le souhait des entreprises pour créer du lien entre les collaborateurs, dépasser un défi, et puis être sur quelque chose de convivial, de détendu, de fraternel.
On s'aperçoit en fait que toujours la cuisine, la bonne bouffe, pour parler familièrement, rassemble.
C'est le fil conducteur,
mais
tout
oui,
à fait.
Mais oui, bien sûr.
De la toque sur la tête jusqu'au café final, effectivement, il y a la convivialité, il y a le partage.
C'est une simple question de bon sens, en fait.
Exactement.
Alors, j'ai continué mon tour sur le site web et j'y ai aussi trouvé d'autres substantifs, comme convivialité, partage, détente, plaisir, gourmandise. Et là, je me suis dit qu'au-delà des aptitudes personnelles et des compétences techniques, nous avons affaire à l'apprentissage d'un art de vivre. Est-ce bien cela ? Est-ce comme ça que vous le voyez ? Et comment ça se transmet, un art de vivre ?
Alors déjà, je pense qu'on a une histoire. On a une histoire. Je vais vous la raconter en quelques secondes. C'est que à l'issue de la Révolution en France, on a des cuisiniers qui se sont retrouvés à la rue. Ils étaient dans les châteaux. C'était des cuisiniers qui étaient employés par des châtelains, par des nobles, et leurs patrons, ben, du jour au lendemain, ils ont disparu. Et donc ces gens-là, on les a retrouvés dans la rue, ils ont créé ce qu'on appelle des restaurants. Donc les restaurants, c'est 1789, et c'est propre à notre culture française. Et à partir de ce moment-là, on a rendu accessible la gastronomie aux Français de manière beaucoup plus facile. Et c'est pour ça qu'on a un écart de culture par rapport aux autres pays sur le plan culinaire. Et cette culture-là, je pense qu'elle est intéressante pour le milieu de l'entreprise, parce qu'on va y retrouver des valeurs, hein, dont on parlait tout à l'heure, de convivialité, de partage, d'adaptation, de plaisir aussi, du travail d'équipe et du challenge aussi, puisque à chaque fois on a des préparations à réaliser qui changent régulièrement suivant les saisons. Et puis c'est vraiment du plaisir qu'on partage ensemble.
Renaud, il semble que l'on n'ait pas tout inventé en cuisine encore, et fort heureusement, bien sûr. Et vous êtes un découvreur de talents, c'est ça ? Puisqu'on parlait dans cette première partie d'émission, vous êtes un incubateur, enfin votre entreprise, c'est un incubateur de jeunes talents, c'est-à-dire qu'on peut venir chez vous, par exemple, si on a une idée, si on a envie de tester avant de se lancer.
Exactement, on accueille des jeunes pour de la formation professionnelle,
ouais.
Et puis on leur propose, à l'issue de leur formation, de les suivre sur leur création d'entreprise, et avant de faire le grand saut et d'acheter un fonds de commerce, d'aménager des locaux, on leur propose de tester grandeur nature leur concept de restauration dans nos locaux. Donc ils ont une cuisine pédagogique qui est à leur disposition, une salle de restaurant qui est à leur disposition, et ils peuvent créer un événement. Donc dans les élèves qu'on a eus qui sont passés par l'activité restaurant éphémère, on a les mecs au camion qui ont créé des camions. Enfin, maintenant, il y a deux camions et 12 salariés et qui ont fait les premiers gros food truck qualitatif sur Toulouse. Et puis on a eu aussi des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui ont envie de changer de métier et qui viennent me voir, qui me disent ben voilà, j'en ai marre de mon activité. Et récemment, j'ai eu deux personnes qui étaient dans le domaine du médicament, qui étaient des docteurs en médicaments et qui ont quitté leur laboratoire pour passer en cuisine,
faire plaisir,
ouais, c'était leur rêve d'enfant. Et elles ont créé un salon de thé qui s'appelle le Blue Teapot, qui est en centre-ville, et donc c'est un restaurant du midi avec de la pâtisserie, et on a testé leur restaurant aussi, leur concept de restauration avant qu'elles puissent s'installer à leur compte.
Et qu'est-ce que vous donnez comme conseil dans ces situations ? Est-ce que vous êtes plutôt du style « allez-y, foncez, c'est super facile, c'est génial » ou alors « oula, attention ».
Alors moi, je pense qu'il faut avoir des capacités, il faut être capable de travailler des grosses journées.
Ouais,
la restauration, c'est 12 heures par jour, c'est 6 jours, voire 7 jours sur 7. C'est un engagement physique, un engagement financier, donc il faut avoir la carrure à ça. Donc effectivement, si on ne veut pas dépasser les 35 heures et qu'on veut rester tranquille, je dis aller plutôt vers autre chose, quoi. Voilà, il y a cet aspect, puis après un gros engagement financier aussi, parce qu'un fonds de commerce, c'est quand même assez cher. L'aménagement d'un restaurant en termes de matériel, de vaisselle, c'est quand même assez lourd. Et puis sur Toulouse, il y a beaucoup, beaucoup de concurrents. Donc j'explique aussi que si on veut s'installer, il ne faut peut-être pas venir sur Toulouse, parce que Toulouse, c'est une ville qui est en matière de surcapacité en restauration qui est très importante. Hein.
Est-ce que vous sentez une sorte de frémissement, une tendance, un concept qui se dégage un peu autour, par exemple, de la world food ou de la street food ?
Alors actuellement, oui, c'est très présent, les camions sont très très présents. Il y a beaucoup de concepts de restauration autour de l'alimentation végétarienne, beaucoup de cuisine fusion, vegan, ça c'est vraiment dans l'air du temps. Alors évidemment, après, il y en a beaucoup qui sont sans gluten, sans lactose, sans viande. Donc ça, c'est vraiment les modes actuels. Et il faut savoir que tout, ça reste une ville très jeune en matière alimentaire. Et on a beaucoup, on a à la fois une tradition avec notre cassoulet, notre confit de canard. Et ça on n'en démord pas. C'est très bien. Et puis aussi, des jeunes qui viennent avec des nouvelles idées. Voilà, on a connu la période des tapas, des cuisines, nouvelles cuisines. Et maintenant, on est effectivement sur une cuisine mondialisée, très végane. C'est une nouvelle
Les enfants sont très présents parmi vos stagiaires. Qu'est-ce qui les attire? Qu'est-ce qui les intéresse? Pourquoi ils sont là, les enfants?
Alors déjà, c'est une activité manuelle. Donc, c'est apprendre à transformer la matière. C'est savoir comment on va transformer une viande, un légume, dans une préparation type une quiche, une tarte, un plat en sauce. Donc, c'est transformer la matière qu'ils adorent toucher. Donc ils vont se rendre compte aussi que l'activité cuisine, c'est une activité dans laquelle on va faire fonctionner nos cinq sens. Et les enfants sont très sensibles à ça pour leur développement. Et puis il y a la magie aussi de faire comme les grands, hein, de faire comme maman, comme papa, comme ce qu'on voit à la télé aussi. Donc effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui viennent ou pour une activité classique avec une préparation qu'on apporte, mais aussi des enfants qui organisent un anniversaire à l'atelier de cuisine gourmande et qui vont inviter les copines, les copains à préparer un gâteau ensemble et puis à déguster ensemble ce qui a été préparé.
Est-ce que ça représente aussi pour eux de découvrir des saveurs, des goûts nouveaux?
Oui, tout à fait. Et il faut savoir après que ça joue sur le développement de l'enfant, c'est s'habituer à la différence, découvrir des nouvelles choses. Et effectivement, il y aura toujours des produits qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude de manger dans son circuit familial et qui vont permettre à l'enfant de découvrir des nouvelles choses.
Vous aviez dit tout à l'heure que vous intervenez dans certains établissements scolaires. C'est ça que vous essayez de faire découvrir des nouvelles saveurs, des nouveaux goûts, de manger un peu de tout et pas simplement les frites et
exactement. Exactement. Nous sommes des omnivores. Du coup, l'idée, c'est de manger autre chose que des nuggets et des frites. C'est déjà être en lien avec la nature, avec ce qui nous entoure, découvrir des aliments bruts et apprendre à les transformer. Prendre du plaisir à la transformation. Donc dans les enfants que j'accueille, il y a effectivement des particuliers, mais il y a aussi des collectivités comme l'hôpital des enfants et qui viennent avec des enfants qui ont des problèmes de surpoids et qui sont un peu coupés de la préparation du repas dans leur famille. Et en fait, la cuisine pédagogique que j'ai permet d'être déjà dans une dimension professionnelle. Les enfants leur donnent un tablier, une toque, donc du coup ils prennent l'habit du chef et effectivement vont avoir une mission, c'est la préparation d'un repas. Et ils sont vraiment partie prenante de cette activité et ils sont toujours très curieux de découvrir des nouvelles choses.
Jean-Marc, alors, question. Parmi vos stagiaires, bien sûr, il y a aussi les parents, peut-être des grands-parents aussi, je ne sais pas. Est-ce que vous considérez que c'est aussi, au-delà de l'apprentissage des techniques et l'acquisition de savoir-faire, c'est aussi l'opportunité pour vous de sensibiliser les personnes sur le bien manger, sur la question d'une nourriture raisonnée, consommer des produits de saison, des produits locaux, une nourriture équilibrée en termes diététiques? Une nourriture de qualité, tout en restant simple. Est-ce que les gens viennent aussi un peu chercher ça?
Oui, il y a cette demande qui est très présente, en sachant que nous, on est plutôt sur une alimentation raisonnée, c'est-à-dire qu'on va utiliser des produits terroirs, effectivement, qui sont un peu gras. On n'aura pas un discours très ferme. C'est vrai que si on a envie de se faire plaisir, c'est important de manger des produits gras ou sucrés. Mais après, on peut aussi cuisiner différemment, cuisiner avec moins de sucre, cuisiner avec moins de gras et trouver aussi du plaisir, des saveurs à travers la dégustation de ces plats qui sont un petit peu modifiés, qui sont adaptés à notre vie actuelle.
Quel est le conseil que vous pourriez donner à ceux qui veulent se lancer en restauration aujourd'hui?
Alors, déjà, il faut avoir une capacité physique parce que c'est quand même debout toute la journée. Ouais. On connaît ce que c'est que le coup de feu. Hein, être dans le jus, c'est être à fond. Et ça, c'est deux fois par jour. C'est avoir des horaires décalés. Donc, ça veut dire une vie de famille qui est un petit peu difficile. On commence par ce qui est le moins bon. Et après, effectivement, c'est quand même un engagement financier qui est important. Il y a une différence entre cuisiner à la maison pour les amis, la famille, ce que l'on aime, et cuisiner pour des clients qui ne sont pas forcément faciles aussi, parce que des fois, il y a des personnes qui sont très, très exigeantes. J'en fais partie. Et ensuite, on a le plaisir de créer sa propre entreprise. On peut créer un restaurant avec très peu de diplômes. C'est vrai que pour des jeunes qui ne sont pas forcément très diplômés, ça peut être une chance de créer leur propre activité, leur propre entreprise, sans trop de diplômes.
De bien choisir l'emplacement aussi.
L'emplacement va être important. Et puis, il faut savoir qu'il faut être bon à la fois techniquement. Il faut trouver des bons collaborateurs, avoir le bon local, être bon commercial, bon acheteur. il faut être bon partout.
Il faut être bon partout et dans l'assiette.
Nous avons parlé du bien manger. Est-ce que vos prestations s'adressent à tous les milieux sociaux ?
Oui, tout à fait, puisqu'on évidemment on accueille des personnes qui sont plutôt dans le haut de l'échelle sociale, mais on intervient aussi sur les centres sociaux avec des personnes qui sont un peu coupées du loisir créatif. Et donc là, effectivement, on va apprendre à réaliser un repas fin avec des produits pas très chers. Une purée de pommes de terre, on peut l'agrémenter d'herbes fraîches hachées, d'un petit peu d'huile d'olive, et on va pouvoir créer avec quelque chose de très très simple et de pas cher un plat qui peut être excellent. Donc on met l'accent là-dessus, sur le fait que la cuisine gastronomique, c'est accessible à tous. Il y a vraiment un engagement militant.
Les ateliers chez vous, vous avez une fourchette de prix à nous communiquer ?
Le premier prix, c'est 19 euros. C'est un cours de cuisine qui dure 30 minutes avec la dégustation d'un plat qui se fait sur place.
Merci Renaud. Merci
avec grand plaisir.
Merci pour votre accueil. De votre site internet, l'atelierdecuisinegourmande.fr, pour vous mettre l'eau à la bouche. Merci à vous Jean-Marc Fontaine.
Merci.
Et merci bien à évidemment bientôt. À vous de nous écouter. Entreprendre@radioprésence.com.
Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.